0-0, vous êtes connecté sur Move.
Move. 13h, 13h30.
Move 13 Actu.
Alex Nassar.
Info, culture, société, sport, tous les jours de 13 à 13h30 sur Move. Move 13 Actu. Toute l'actu de ce jeudi 22 février. Comment ça va, la team Move 13 Actu? Move 13 Actu à la radio, bien sûr, mais aussi sur smartphone avec l'appli Move et en vidéo sur Facebook Live. Connectez-vous sur la page officielle Move Radio. Au programme aujourd'hui, Sonia, une enquête assez gênante pour Jean-Luc Mélenchon.
Ouais, des structures dirigées par des proches de Jean-Luc Mélenchon ont-elles surfacturé leurs services pendant la campagne présidentielle et donc bénéficier du remboursement de l'État? C'est en tout cas ce qu'une enquête de France Info tend à prouver. Je vous explique tout dans quelques instants.
Ce sera dans le focus du jour. Guérin, toi aussi, t'es en mode politique aujourd'hui dans ta Zoom Bactu.
Oui, notamment, on va parler de Donald Trump qui a dit une connerie.
Oui, parce
qu'il fait que ça. Arnaud Montebourg qui est en mode maille à l'abeille et Macron qui veut serrer Karine Le Marchand.
Ah ouais?
Alors, je pense que c'est une rumeur, pas une rumeur, je vais pas tout vérifier non plus, faut pas déconner.
Tu vérifies peu. Ce sera dans la Zoom Bactu politique de Guérin. Du sport aussi avec Greg. C'est plus l'amour fou entre José Mourinho et Paul Pogba.
Ça avait commencé comme une belle histoire d'amour avec un beau mariage à l'été 2016.
Tu vas pas chialer non plus.
Bah, le quotidien a fait son œuvre, Alex. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les déclarations d'amour, les sourires ont laissé la place aux chamailleries, aux petits coups bas. Nouvel exemple hier soir après le match de Ligue des Champions contre Séville. Sale période pour José et Polo.
Ce sera dans le trash talk du jour. Ne dites rien, ne dites rien. Fais comme si c'était rien passé. Et puis Max sera là aussi. Max qui a vu pour nous The Shape of Water, la forme de l'eau, hein, en VF. C'est le dernier film du réalisateur mexicain Guillermo del Toro, grand favori des Oscars 2018 avec 13 nominations sorties hier au ciné. Alors c'est quoi ce film? Pourquoi tout le monde est fan? Les réponses avec Max dans Move 13 Actu.
Move 13 Actu.
Jusqu'à 13h30. Move.
On démarre avec la timeline de Move 13 Actu. Les infos qui tournent en ce moment sur les réseaux repérés par la team. On commence avec Sonia, qu'est-ce que t'as vu?
À Orléans, une lycéenne de 17 ans, Mathilde, qui a été désignée lundi par l'association Orléans Jeanne d'Arc pour défiler le 8 mai dans les rues d'Orléans, pour défiler donc en incarnant Jeanne d'Arc,
ouais,
libératrice de la ville en 1429. Elle a été sélectionnée parmi 13 candidates et c'est une première, hein. C'est la première jeune fille métisse à endosser ce rôle. Mathilde est d'origine béninoise,
okay.
Et ça, bah, ça n'a pas du tout plu aux racistes de la fachosphère, ça ne leur a pas plu et ils l'ont fait savoir, bien sûr.
Oui.
Mathilde s'est pris plein de messages racistes et injurieux, j'ai même pas envie de vous les lire, hein.
C'est
juste hallucinant.
Pas. C'est pas la peine de les lire.
La présidente de l'association Orléans Jeanne d'Arc, Bénédicte Barranger, a expliqué à France Bleu Orléans que la jeune fille répondait aux critères de sélection, c'est-à-dire être catholique pratiquante, habiter Orléans depuis au moins 10 ans, être scolarisée. Elle a même précisé, Mathilde est une jeune fille bien en tout point, ça semble juste dingue qu'il y ait besoin de se justifier
c'est
là-dessus.
C'est hallucinant. Ça vous choque évidemment, Guérin, cette histoire?
Alors moi je tiens juste à dire 3 choses. Premièrement,
oui.
L'association Jeanne d'Arc Orléans. J'aime beaucoup.
Oui.
J'aime beaucoup le nom. Deuxièmement, je rappelle que Alexandre Dumas était métisse, qu'il a joué au cinéma Gérard Depardieu.
Voilà.
Fermez vos gueules.
Fin de la discussion. Greg, ça choque cette polémique.
Oui, il a tout dit. Il a tout dit.
C'est hallucinant. Ce qui est ouf, c'est qu'ils sont obligés, obligés de se justifier.
Invité à la radio pour se justifier du choix. Mais non, il n'y a pas à se justifier, quoi.
Donc pour l'instant, il la garde et puis on n'en parle plus.
Tout à fait.
Très bien. Ça fasse pas un coup comme c'était quoi? C'était Verdun avec Black M.
Oui.
Toutes ces histoires qui reviennent hyper régulièrement. Merci beaucoup Sonia. Greg, comme tous les jours, le petit point JO qui va bien?
Oui, mais alors un point JO un peu particulier puisque Pornhub.
Ah oui, c'est particulier, oui.
Tu connais?
Oui, c'est un site.
Rapidement.
Oui,
le plus gros site porno.
C'est un site de vidéo X, oui,
le
voilà.
Le plus gros site porno au monde. Eh bien, Pornhub a dévoilé ses chiffres qui montrent que le sexe est la grande médaille d'or de ces JO d'hiver.
Ah ouais?
Plus 85% de trafic constaté dans la région de Pyeongchang, tiens, bizarrement, depuis le début des Jeux.
C'est étonnant. C'est des athlètes, c'est quoi? Qu'est-ce qui va?
Oui, sûrement. Alors, dans le détail, on note une grande baisse de la fréquentation du site le 9 février, date de la cérémonie d'ouverture.
Ah, bah, ils étaient occupés.
Tout le monde était occupé.
Forcément, ils défilaient.
Mais un trafic très fortement augmenté le 12 février.
Ouais.
Date où beaucoup d'épreuves avaient été reportées à cause de la météo.
Bah oui.
Donc apparemment, faut s'occuper quand on est à l'hôtel.
Bah bien sûr, tu t'ennuies, tu fais rien, qu'est-ce que tu fais? T'as ton ordi, tac tac.
Et ben voilà, forcément, forcément.
Quand t'as fini Netflix, faut passer à autre chose. Boum, tu vois, tu passes à Pornhub, forcément.
Alors,
pardon, t'as pas fini?
Non, j'ai pas fini, j'ai expliqué quelques chiffres. Les recherches contenant les mots coréen ou swedish ou suisse ont augmenté de respectivement 112%, 31% et 26%.
Suisse, ok.
Ouais. Les Suisses, apparemment, ou les Suisses sont très appréciés.
D'accord.
Sur Pornhub.
Ok.
Pornhub souligne aussi une augmentation de 3000% de la recherche Sex Olympics.
Sex Olympics.
Et de 1800% pour Nude Olympics.
Et t'es allé voir?
Bah du coup tu m'as demandé d'aller voir.
Bah oui, bon,
je me suis forcé, j'y suis allé.
Il faut enquêter mon vieux.
Je ne connaissais pas, j'ai enquêté.
Alors
et bah alors il se passe rien sur ces catégories là. On voit des gens avec des bonnets,
oui,
dans des chalets,
oui,
mais c'est tout, il y a rien de d'olympique en fait.
C'est l'ambiance sport d'hiver.
Oui, voilà, c'est sur Premium. C'est plus ambiance sport d'hiver, peut-être sur Premium mais autre chose.
Je crois que ça t'a donné une idée de scénario, c'était un truc sur le biathlon, ça s'appelle Martin Four 4.
Oh, ça va, fais pas le choquer.
Nassar, tu as ri, tu as ri ce matin, oui, de bon cœur, oui, à cette salle.
Je ris toujours, mais intérieurement. Et je fais genre que je ris pas pour garder un peu de dignité. Merci beaucoup, Greg. Guérin, toi, tu connais les séries. Alors, les plus regardées, pas sur Pornhub, mais sur Netflix.
Oui, alors Netflix, eux, contrairement à Pornhub, ne dévoile jamais ses chiffres.
Non, c'est vrai, jamais.
Mais
ouais,
l'appli TV Time, qui est une appli de télé, toutes les semaines fait un classement des séries les plus bingées sur Internet.
Ouais.
Alors, on a dans le top 10, très inattendu, Grey's Anatomy.
Donc, ah ouais,
les vieux, ont Netflix.
D'accord.
Friends, donc ça veut dire que Greg regarde beaucoup trop Friends.
Ouais. En boucle.
Et alors attention, la numéro 1, petit jeu, c'est une série et c'est ça le générique.
Est-ce que vous savez ce que c'est?
La Casa de Papel.
Oh là 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 là, quel espagnol. Oh là là, oui, c'est La Casa de Papel, série espagnole qui est aussi sur Netflix,
ouais,
qui raconte l'histoire d'un braquage parfait mené par un mec inconnu qui recrute des gens des anciens repris de justice.
C'est un carton.
Et ça carton, mais surtout c'est sorti le 20 décembre, il y avait pas une pub, rien.
Ouais, c'est vrai.
C'est la série la plus bingée sur internet. C'est incroyable, ça marche énormément, notamment justement pour sur tous les jeunes, vachement sur les jeunes de partout, c'est hyper et c'est quand même un phénomène assez intéressant.
Donc, moi, je veux dire, le fait qu'il n'y ait pas de pub, le fait
aucune
qu'il n'y ait pas
de pub, aucun truc, et que ce soit ça, qu'il y ait une série espagnole, ouais, qui marche à mort, que ce soit dans le terre-terre, dans les beaux quartiers, ouais, dans partout, que ce soit un truc comme ça.
Après, les séries européennes ont plutôt la cote, hein. Gomorra, c'est une série
italienne. Les séries espagnoles, à part Undo's Dress il y a 10 ans, ils n'avaient plus sorti grand-chose. Hein.
C'est pas faux. Bon, en tout cas, La Casa des Papels, c'est sur ma liste. Oui, Guérin,
et je tiens à dire que
ce n'est
pas une série produite par Netflix au départ, ce qui prouve que sur Netflix, ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'ils produisent pas.
Merci, Guérin. En fin d'émission dans tes Gossip Pop. Retour sur les Brit Awards, c'était hier soir. Les victoires de la musique anglaise, ce sera en fin d'émission. 13.07 sur Move.
Du lundi au vendredi, Move 13 Actu.
Le focus de Move 13 Actu. Tous les jours, un sujet a priori compliqué, expliqué en seulement 3 minutes. Aujourd'hui, Sonia, une enquête de France Info assez gênante pour Jean-Luc Mélenchon.
Oui, l'enquête parle des étranges factures de campagne de Jean-Luc Mélenchon, fondateur et président du groupe La France Insoumise. Alors,
on parle donc de la campagne présidentielle de 2017.
Ouais, hein. Tu le sais, Alex, il y a des règles concernant les frais de campagne.
Ouais.
C'est sous que les candidats dépensent pour faire campagne, pour te convaincre de voter pour eux.
Mm-hmm.
Alors déjà, il ne faut pas déplacer le plafond autorisé. Hein. C'est un peu plus de 16 millions d'euros en 2017 pour les candidats au premier tour.
D'accord.
Et le candidat qui réunit plus de 5% des suffrages à ce premier tour, il peut se faire rembourser environ la moitié de ses frais, donc jusqu'à 8 millions d'euros.
Et c'est justement ce remboursement, hein, de 8 millions d'euros qui pose problème.
Oui, la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique, c'est la SNCCFP.
C'est la CNCCFP.
Tout à fait. Et bien, cette commission, elle analyse quand même les factures avant de rembourser. Hein,
bien sûr.
Et elle a retoqué des centaines de milliers d'euros de factures présentées par l'équipe de Jean-Luc Mélenchon.
Plusieurs centaines de milliers, pourquoi?
Eh bien, elle estime que certaines prestations ont été surfacturées.
Alors, surfacturées par qui?
Par des potes de Jean-Luc Mélenchon.
Mais alors, comment il a fait pour faire croquer ses potes?
Alors, France Info parle de sous-traitance très inhabituelle. Alors, je t'explique. Hein, les principaux candidats à la présidentielle, Macron, Fillon ou encore Le Pen, mm-hmm, eh bien, ils ont versé des millions d'euros de salaire à leur équipe de campagne. Normal, hein, y a des gens qui bossent avec eux.
Bien sûr.
Jean-Luc Mélenchon, lui, il n'a versé qu'un peu moins de 8 000 euros de salaire pour toute la campagne.
Pour toute la campagne, 8 000 euros. C'est très, très peu.
Ouais, c'est moins que François Asselineau ou Jacques Cheminade, des candidats dont vous ne vous souvenez même plus.
C'est vrai qu'on les a oubliés assez rapidement. Mais alors, comment c'est possible?
Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a fait le choix de ne pas payer lui-même ses équipes, mais de faire appel à des sociétés extérieures qui prenaient en charge ses salaires.
D'accord.
Et se prenaient une petite commission au passage au moment de facturer la prestation.
D'accord. Et donc, ces sociétés, elles sont dirigées par des proches de Mélenchon.
C'est ça. Une association en particulier a, semble-t-il, bien profité du système L'Air du Peuple, fondé par 3 proches de Mélenchon. Hein. Bastien Lachaud, aujourd'hui député de la France Insoumise, il a été payé un peu plus de 29 000 euros bruts pendant la campagne pour son rôle de coordinateur du pôle action de campagne et événements.
D'accord.
C'est déjà très
bien,
29 000 euros.
Ouais.
Mais L'Air du Peuple a refacturé ses services 129 000 euros à l'association de financement du candidat Mélenchon.
Ah oui, 100 000 euros de marge, elle est belle, c'est énorme. Hein.
Ouais, c'est pas tout. Hein. Autre société qui intrigue beaucoup, c'est Mediascope. Mediascope qui a facturé plus d'un million d'euros pour gérer la com de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, avec des prestations payées parfois le double du tarif affiché officiellement seulement par la boîte. Mmh. Une boîte qui n'a d'ailleurs, hein, c'est ce que souligne l'enquête, pas de locaux, pas de salariés en dehors des périodes de campagne et pas de matos. Okay. Mais elle a une directrice proche de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou.
Ça commence à faire beaucoup.
Ouais, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. L'enquête met aussi en avant le recours aux auto-entrepreneurs, une dizaine au total, hein, parmi eux Alexis Corbière, le porte-parole du candidat, qui n'était donc pas salarié, mais qui a tout de même perçu 28 700 euros d'honoraires pendant la campagne.
Mais Mélenchon, en plus, il est contre ce statut d'auto-entrepreneur,
oui,
il l'a dit. Hein.
Arnaque de première grandeur, okay. C'est comme ça qu'il le qualifiait, ce statut. Il avait même promis de le supprimer s'il était élu en 2012.
Jean-Luc Mélenchon, qui a refusé de répondre à France Info suite à ces révélations, il maintient pour l'instant que son compte de campagne est sincère et régulier, je cite. L'enquête est à lire en intégralité, évidemment, sur le site de France Info. La team, c'est chaud quand même, cette histoire pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, Guérin.
Le truc, c'est que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il pourra de toute façon toujours dire que ça a été validé. Donc, ouais, c'est pas illégal. Par contre, le fait que ça soit Jean-Luc Mélenchon, ça la fout mal, comme ça on disait en 86.
Ça la fout mal. Sonia, est-ce qu'on peut parler d'un big malion bis pour Mélenchon ou ça n'a absolument rien à voir?
Un petit peu, dans le sens où effectivement il y a des personnes qui ont surfacturé les prestations. Là, oui, ça ressemble. Après, là, ce qui est impressionnant, c'est de voir que c'est plein de petites structures, plein de petits trucs pour justement se faire de l'argent. Et puis, encore une fois, c'est quand même les sous de l'État. C'est-à-dire, ce qui rembourse ces prestations, c'est l'État. Donc, c'est tu te défends, tu te présentes en disant c'est pour défendre le peuple, pour servir les intérêts du peuple. Et en même temps, tu prends des sous de l'État pour, a priori, hein, puisque ça reste au stade de l'enquête, pour a priori quand même que tes potes puissent croquer un peu.
Ouais. Greg, que les potes croquent comme ça autour des politiques?
Bah oui, c'est scandaleux, évidemment, surtout quand tu utilises les sous de l'État, encore une fois, mais ça ne m'étonne pas, non? Ça ne m'étonne pas, c'est pas parce que c'est Mélenchon qu'on aurait dit au-dessus de tout soupçon, non? C'est Mélenchon, il est comme les autres.
Ouais, de toute façon, c'est difficile de trouver des personnalités politiques non, au-dessus de tout soupçon, de toute façon, quelles que soient les accointances politiques. Ouais. Bon. On suivra en tout cas cette histoire parce qu'il y aura forcément des suites, hein, dans les jours et dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Sonia, pour ce focus. Non mais c'est raccord, le thème de la série House of Cards, hein, parce qu'aujourd'hui, Guérin, tu nous emmènes dans les méandres du pouvoir.
Oui, on va pas aller à fond dans les méandres, hein, mais en périphérie de méandres.
D'accord.
On a pas mal de reconversions de politique en ce moment, ouais, c'est la mode. Ouais. Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, elle a trouvé du taf chez Ipsos,
oui.
Ah ouais. L'institut de sondage, Psartec, Najat. Et c'est marrant parce que selon un sondage Ipsos, 90% des Français s'en branlent. C'est incroyable.
La Zumbactu politique de Guérin dans quelques instants, mais d'abord, Greg a une info pour nous, 13-12 sur Move.
Du lundi au vendredi,
Move 13 Actu, Move
jusqu'à 13h30.
Le sachiez-tu de Greg, tous les jours, une info totalement inutile, une info qui sert à rien, un peu comme quand Guérin achète du shampoing.
Oui.
C'est pas extrêmement utile.
C'est vrai ça, comment vous faites?
Il est complètement chaud.
Vous achetez pas de shampoing, vous lavez la tête comme votre peau en fait.
Oui, c'est de la peau. Ne dévoile pas les secrets des choses.
Les secrets des coulisses.
Non, on garde nos petits secrets pour nous.
Okay, hein, pour moi.
C'est pas, tu vois ce que je veux dire?
Vous
on
mettez
te
des
demande
soins,
pas
des
comment
trucs,
tu fais ta mèche avec un fer à lisser ou pas.
C'est vrai.
Tu vois, on respecte ça. On t'écoute, Grégo.
Vous connaissez évidemment le Fanta.
La boisson orangée,
bien évidemment. Ouais. Bah, ça vient d'où ce nom Fanta?
Fantastique.
Non, ça vient pas de ça.
Fantasia.
Ça vient d'un mot allemand qui se dit Fantasiegetrunk. Et ça signifie boisson de l'imagination. Donc on est un petit peu dans ce délire là en fait.
D'accord.
Fantasy drink.
Fantasiegetrunk à la fin.
Ok, d'accord.
Enfin, c'est de l'allemand, mais donc on comprend pas bien.
Il parle aussi bien anglais qu'allemand,
oui. Ouais, non, c'est pire même. Donc, c'est boisson de l'imagination, elle a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale, cette boisson. Coca, ouais, n'avait plus la possibilité d'exporter du coca dans les territoires contrôlés par le Troisième Reich.
D'accord.
Du coup, ils ont imaginé un produit capable d'être fait avec des ingrédients disponibles sur place.
Oh.
Et donc, au départ, dans les foyers allemands, on s'en servait surtout comme bouillon de soupe, du Fanta. Voilà.
Ah.
Bah, à la base, c'était pas la recette qu'on connaît actuellement, bien sûr.
Vachement. Tu finis ta soupe au Fanta, sinon.
Et maintenant, une petite pointe de Fanta pour mettre du peps.
Merci beaucoup, Greg. On te retrouve pour le trash talk du jour, hein, dans quelques instants, consacré aux relations très tendues entre José Mourinho et Paul Pogba.
Les histoires d'amour finissent mal en général.
Il paraît, ouais.
Et ben, celle entre José et Polo à Manchester United vit peut-être ses derniers instants. Nouveau rebondissement hier soir après le match face à Séville.
Ce sera dans le trash talk dans quelques instants.
13h, 13h30.
Move 13 Actu.
Move. Alex Nassar.
13-14 sur Move. C'est l'heure de la Zumbactu de Guérin. Une Zumbactu en mode Jean-Jacques Bourdin. Hein. C'est la Zumbactu politique.
La Zumbactu vous est offerte par Droliprane, les nouveaux bonbons carambars thérapeutiques qui apprend une histoire drôle. Qu'est-ce qu'une chauve-souris avec une perruque? Une souris. Non, c'est pas très drôle, mais vous n'avez plus mal à la tête.
Gros concept, hein, le drolibran. Ah oui. Hein. Très gros concept. Allez, on commence par la connerie du jour de Trump.
Oui, suite à la tuerie horrible qui a fait 17 morts au lycée de Parkland en Floride, Trump s'est décidé à faire quelque chose à propos du droit de porter une arme. Mm-hmm. Pour éviter les tueries dans les écoles, il veut pas interdire les armes en vente libre. Non, plus malin, il a une astuce. Il veut proposer de donner des armes aux profs.
Mais comme ça, c'est bien, parce que s'il y a un tueur, comme ça, tu peux le tuer. Comme ça, il y a plus de gens qui meurent. Super. Incroyable. Ça, c'est un peu comme donner des chalumeaux aux pompiers en disant, pour qu'il y ait moins d'incendies criminels, il faut que ça soit vous qui mettiez le feu vous-même à la forêt. Le mec creuse tellement profond, le trou, tous les jours. Je pense dans 3 mois, il est en Australie.
Oh, avant ça même, hein, je pense. Hein. Allez, on reste aux États-Unis avec Marion Maréchal Le Pen.
Oui, elle a décidé de s'installer aux États-Unis, mais quand elle s'est rendue compte que ça faisait d'elle une immigrée, elle s'est auto-expulsée. Pas du tout. Elle est là-bas parce qu'elle doit faire un discours au congrès de la droite conservatrice américaine.
Mais alors, un discours de quoi, pour raconter
elle
quoi?
Elle a un grand projet. Elle veut créer une école, une académie de sciences politiques.
D'accord. Faisons comme ça.
Et c'est sérieux en plus. C'est-à-dire, ça prend classe sur le CV si on te demande. Ah oui, alors comme ça, t'as fait Sciences Po Paname, Sciences Po Bordeaux. Non, Sciences Po Le Pen.
Ah
ouais,
c'est vachement moins
grave. Option jambon en remplacement. Voilà. Et puis c'est pas clair, parce que son histoire, là, elle dit que son académie, c'est un projet au-delà de la politique, c'est métapolitique. D'accord. Et c'est pas partisan. Ah. Mais elle veut que ça soit pour défendre les valeurs de la droite. Donc c'est partisan.
Oui, un peu, oui, quand même. Oui.
Mais elle dit non, c'est pas partisan, c'est politique. Donc c'est pas au-delà de la politique. Écoute, Marion, ça n'a aucun sens. Il faut pas créer une école. Il faut que tu ailles à l'école.
Ouais,
et après, seulement tu pourras te permettre.
C'est plutôt ça. On continue avec Emmanuel Macron qui aujourd'hui reçoit à l'Élysée 800 agriculteurs.
Ah oui. Après avoir reçu plus de 800 lettres, Emmanuel a invité les agriculteurs coup de cœur. Va-t-il les convaincre de quitter leur tracteur pour venir livrer le lait de synthèse en voiture? Car le Uber des produits laitiers, c'est ça notre projet! Non, pas du tout. Rien à voir. Macron reçoit des agriculteurs, non pas pour essayer de pécho Karine Le Marsan en scred, non, mais ouais, parce que demain, c'est le salon de l'agriculture qui commence à Paris. Et il veut rassurer le monde agricole pour leur parler d'un projet de réforme. Ne me demandez pas quoi, le mec fait une réforme par jour, je ne suis plus, j'ai même pas encore compris celle de l'école.
Et on termine avec Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie sous François Hollande, qui a définitivement quitté la politique.
Oui, fini le socialisme, vive le capitalisme, puisque Montebourg devient chef d'entreprise.
Bonjour, c'est France 2, cache investigation.
Calme-toi, Élise, calme-toi. Il veut juste vendre du miel et des amandes. Non, c'est vrai. Il n'ouvre pas un magasin Naturalia pour hipster à chapeau. Non, il est en mode maillot l'abeille. Il veut relancer l'apiculture et en même temps créer une école, lui aussi.
Okay.
Pour les gens qui aiment les abeilles. C'est inattendu, mais c'est assez disruptif, finalement, oui, oui, comme on dit dans la Startup Nation, parce qu'il veut faire ça à Dijon. Alors, faire du miel à Dijon, c'est rock, quand même. Parce que le Dijon, c'est plus le pays de la moutarde, normalement, oui, et du courant musical punk, le bambourguignon. La, la, la. Bah cherchez pas, c'est tout le temps comme ça.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le bambourguignon. C'est une musique.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est, on dirait du DJ Khaled un peu, genre la 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 l'air.
Anadon.
La 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 l'air.
Ça marche
bien. Ça marche bien.
C'est horrible. Merci beaucoup, Guérane, pour ce point très complet hein, sur l'actu politique du moment. Donald Trump qui propose de lutter contre les tueries dans les écoles en donnant des pistolets aux profs. Quel
faut
est le
qu'il
putain
arrête.
Quel boîte de
fuck,
quoi.
C'est hallucinant.
Sonia.
Non mais faut qu'il arrête, c'est juste pas possible.
C'est la preuve de la puissance du lobby des armes. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont mis tellement d'argent dans la campagne, la NRA, ils ont tellement financé les républicains depuis toujours qu'ils sont pieds et poings liés. C'est-à-dire que même si tu veux, je pense qu'un jour, tu te dis, quand je disais ils vont bientôt interdire l'école pour qu'il n'y ait pas de tuerie,
c'est qu'on va arriver
le
à
feront,
ça.
Ils le feront avant d'interdire les armes. Ils sont ultra puissants.
Mais au-dessus de ça, je pense qu'ils pensent aussi que c'est une bonne idée. Hein. Tu veux dire, plus de la NRA, au fond de lui, je pense qu'il est un peu dans ce délire-là.
Il y a un mot qui ne marche pas, c'est-à-dire il pense.
Non, ouais, déjà, ça, c'est le point de départ. Et encore 985 jours hein, avant la fin du mandat de Trump.
Ah ouais, quand même.
Je compte régulièrement. Putain, c'est long. Allez, on se retrouve pour les Gossip Pop, Guérane, des Gossip Pop consacrés aux victoires de la musique anglaise, les Brit Awards. C'était hier soir à Londres, ce sera en fin d'émission. 13-19 sur Move.
13h, 13h30.
Move très actu. Move. Alex Nassar.
On passe en mode cinéma avec Max. Comment ça va, Max?
Mais ça va très très bien. Hein, ça va très très bien. En forme, en grande forme. En forme d'eau même. Bah oui.
Ça commence très très bien, dis donc.
Ouais.
Ça commence bien, la forme de l'eau.
La forme de l'eau, ouais.
C'est le film que tu es allé voir hier.
Ouais, voilà. The Shape of Water en VO. C'est le nouveau film du réalisateur mexicain Guillermo del Toro. C'est Guillaume du Toro en VF, hein, donc.
Ah, oui, on, là on aurait pu remettre la petite
batterie. On aurait pu, hein. on aurait pu. On la remet.
Allez, t'es vraiment très très chaud aujourd'hui.
Allez, on la remet.
Del Toro, 53 ans, qu'on ne présente plus.
Hein, non, un très très grand réalisateur. Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, Crimson Peak, Pacific Rim, ou encore les séries The Strain et Trollhunters. Bah, tout ça, c'est lui.
Et donc hier matin, est sorti en salle son nouveau film, The Shape of Water.
Ouais, un film très très attendu. Il a déjà remporté pas mal de prix. Lion d'or au Festival de Venise, Golden Globe du meilleur réalisateur et meilleure bande son. Et puis surtout, pas une, pas deux, pas trois. Pas 4, pas 5, non, pas 6. Je vais pas toutes les faire. 13 nominations aux Oscars cette année, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice pour Sally Hawkins aussi, et meilleure bande son pour le français Alexandre Desplat.
13, c'est énorme. 13. C'est le record ?
Alors, c'est pas le record. Il y a déjà eu des films nommés dans 14 catégories, dont Titanic et La La Land, par exemple.
D'accord.
Mais c'est très, très rare. Hein. 13, c'est déjà énorme. Seulement 10 films dans l'histoire ont eu 13 nominations aux Oscars. Il y a eu notamment Autant l'emporte le vent, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi et Forrest Gump.
D'accord. Donc, voilà. Que des blockbusters, quoi. Oui.
Que des gros. Bon, Alex, je te propose qu'on se jette à l'eau avec un extrait.
Non, allez, vas-y.
On met pas les tambours. Là.
Non, c'est bon.
Elle est sourde ?
Muette, monsieur. Elle vous entend.
Cette chose vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas vrai ? Mais le Seigneur nous a créé à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça ? Les indigènes d'Amazonie le vénéraient comme un dieu.
Ce n'est même pas humain.
J'adore les gros sons comme ça. Donc on est en 1962, en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Ça se passe dans un labo de recherche militaire américain. On suit Elisa, une technicienne de surface malentendante, c'est comme ça qu'on dit.
D'accord.
Qui découvre une créature de laboratoire chelou, une sorte d'homme-poisson qui a été capturé en Amérique du Sud et qui s'avère être une créature beaucoup plus humaine qu'elle en a l'air.
D'accord, donc c'est un film de science-fiction.
Maintenant, Nassar, c'est un western, hein? Non, évidemment, non, c'est un film de SF. Il se passe d'ailleurs des choses assez cheloues entre Elisa et l'homme-poisson, hein, qui lui-même a des pouvoirs un peu spéciaux.
D'accord.
Alors forcément l'armée s'intéresse beaucoup à lui, mais bon, je vais pas tout divulgâcher.
Non, ne divulgâchons pas tout de suite. J'ai vu qu'il y avait une petite polémique autour du film, Max.
Oui, certains ont du mal avec la love story entre une femme et une créature. Bah, on accuse le film de faire l'apologie de la zoophilie, hein, mais faut se calmer un petit peu quand même, les gars.
Pas n'importe quoi.
C'est un film de SF, hein, c'est pas la vraie vie. Non, c'est pas parce que ça s'appelle La Forme de l'eau qu'il faut oublier de s'hydrater.
Voilà, c'est ça. Il faut bien boire. Buvez voilà. De l'eau. C'est Guérin, on l'a perdu.
Mais genre que s'il y a des gens qui allaient se jeter à poil au rayon poissonnerie.
C'est vrai que c'est assez flippant parfois les réactions des gens sur les internets. Bon, est-ce que t'as kiffé ?
Bah oui, j'ai surkiffé, hein. C'est un film qui m'a beaucoup touché, les thèmes de la différence, de l'exclusion, et puis surtout c'est une claque monstrueuse en termes de réalisation. Le casting évidemment est parfait. Sally Hawkins qui jouait Elisa, avec en face un bad guy bien vénère qui est joué par Michael Shannon, un acteur que j'adore. On l'a déjà vu dans la série Boardwalk Empire, plus récemment au cinéma dans Midnight Special.
Ok, donc La Forme de l'eau, en gros, c'est archi validé.
Archi validé, hein. Je suis pas du tout étonné que le film soit nommé 13 fois aux Oscars. Je pense même qu'il va en ramener pas mal de statuettes. Pour moi, un tel niveau de perfection, c'est quand même très très rare au cinéma.
La Forme de l'eau, Guérin, ça va, tu te remets?
Non, mais je ne m'en remettrai jamais. Qu'est-ce que tu fais avec cette boîte de thon?
Repose tout de suite, ce sont crabes.
Mais non, mais en plus, La Belle et la Bête, c'est symbolique, merde, réfléchissez
bien
les gens.
Oui, mais qu'est-ce que tu veux, Alex, la team premier degré fait des ravages, hein, tous les jours, toutes les heures. La Forme de l'eau de Guillermo del Toro en salle depuis hier. La team, est-ce que déjà vous l'avez vu ou est-ce que vous avez prévu de le voir, Sonia?
Non, j'ai pas vu, mais ça donne envie. Mais en même temps, il y avait déjà celui de la semaine dernière que j'avais envie de voir et que j'ai toujours pas vu, donc je commence à avoir du retard.
Greg,
J'avais juste entendu parler, ça m'a donné envie parce que là, comme ça, Guillermo del Toro, j'ai bien aimé Hellboy ou Pacific Rim, mais après, je suis pas non plus un méga fan, mais pourquoi pas. En plus, il dit que c'est un film pour les fragiles, donc ça me.
C'est vrai que ça a l'air assez ouf, Guérin.
Ah bah moi, je vais aller sur Tinder contacter des petits profils de saumon là. Je vais les amener à l'UGC, ça.
Bon, et sinon, je rappelle, hein, la 90e cérémonie des Oscars, gros événement, c'est le 4 mars prochain à Los Angeles, Max.
Ouais, ça sent la grosse édition des Oscars cette année. Beaucoup de très très bons films en compétition, dont La Forme de l'eau. Il y a aussi Get Out, Dunkerque, Pentagon Papers, Three Billboards. Ça va être sur chaud.
On en reparlera avec toi la semaine prochaine des Oscars 2018. Merci beaucoup, Max. Stormzy sur Move, le rappeur anglais, hein, qui a passé une bonne soirée hier, Guérin.
All right, mate, we're going to talk about music, mate. Pardon. Excusez-moi.
Ouais, c'est un peu mon deuxième pays, hein, donc c'était les Brit Awards hier soir. Je m'emballe un peu parce que j'aime bien l'Angleterre.
Ouais.
Parler normalement pendant les Gossip Pop, hein.
Très bien.
Faire normal.
Le débrief des Brit Awards dans les Gossip Pop, c'est juste après le trash talk de Greg 1324 sur Move.
Move jusqu'à 13h30.
Move très actu.
Alex Nassar.
Le trash talk de Move très actu, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg, le clash entre Paul Pogba et José Mourinho.
Ouais, en marge du match de Ligue des Champions d'hier soir, 0-0 entre Manchester United et le FC Séville. Match bien pourri. la Ligue des Champions forcément évidemment derrière. Ce que je retiens surtout, donc, tout comme la presse anglaise, c'est que Paul Pogba, la superstar française de United, cinquième plus gros transfert de l'histoire, n'était que remplaçant. Ça sent le pâté entre lui et le coach portugais José Mourinho.
Alors que pourtant, tout avait si bien commencé.
Nous sommes à l'été 2016, José Mourinho débarque à Manchester United, le club de ses rêves. Quelques semaines plus tard, Paul Pogba, qui sort d'un superbe euro avec la France, arrive à son tour chez les Red Devils, qui l'arrache à la Juventus Turin contre un joli chèque de 105 millions d'euros. José est content d'avoir Paul dans son effectif, Paul est content d'avoir The Special One comme entraîneur.
Oui.
L'idylle commence et se conclut par une victoire en Ligue Europa un an plus tard.
Oh, mais c'est beau ce que tu nous racontes là, Greg, magnifique histoire.
Je sais, mais tout ça, c'est fini. Depuis la rentrée 2017, il y a de l'eau dans le gaz entre Paulo et José. Comme dans un couple déjà fatigué de s'être trop aimé trop vite. Les relations se crispent, on se fait la gueule, on dort dos à dos dans ce lit devenu trop petit. Alors qu'on est quand même sur du king size 200 par 200. Hein,
oui, d'accord, c'est triste quand même.
Oui, mais c'est la vie. En plus, Pogba fait pas une saison de ouf. Quelques blessures, une petite grippe et une gastro par-dessus. Ça te flingue un couple, hein, c'est comme ça. Vous allez retour aux toilettes, la bassine, bref. José fait moins jouer Paul. Paul le vit mal et le 31 janvier dernier, c'est le drame. Scène de ménage entre Paulo et José sur le banc de touche devant les caméras. Depuis, Pogba et Tricard, Mourinho le laisse sur le banc comme par exemple hier soir.
Ah oui, donc ça sent vraiment vraiment la fin de la love story là.
Ouais, surtout que José en plus a un nouveau chouchou, Guerin. Fais-nous José.
Alors là,
s'il te plaît, je te prête
fait,
ma feuille si tu
fait.
L'as perdu.
Je crois que Scott mérite plus que ce qu'il est actuellement. Peut-être que c'est parce qu'il a un profil de joueur simple, une coupe de cheveux normale, pas de tatouage, pas de grosse voiture, pas de grosse montre. Arrivé au club depuis l'âge de 9 ou 10 ans.
Tiens, prends ça dans les dents, Paul. Parce qu'évidemment, les grosses voitures, les grosses montres, c'est référence
oui,
à Pogba. Paul Pogba. C'est qui ce Scott là ?
Eh ben, Scott McTominay, un petit jeune de 21 ans formé au club qui découvre l'équipe première et la Ligue des Champions. C'est lui qui fout la merde. C'est à cause de lui que Pogba ne joue plus, Polo. Assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer ta journée dans le noir. Polo, je le sais, je le sens, il se fout de toi.
Arrête, tu sais, ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques.
Et donc, on se l'écoute en entier, du coup.
Un peu, du coup. Moi, non. J'ai laissé tout. J'ai laissé 4 minutes. Moi, ça me dérange pas.
Merci beaucoup, Greg. Il est quand même chelou, un peu, Mourinho, Guerin. Il s'est clashé dans tous les clubs où il est passé. Alors, avec les grands joueurs.
Non, s'il a perdu après le Real Madrid, il a perdu le mojo.
Tu trouves?
Ah, bah, complètement. Je pense qu'il s'est complètement. Il est devenu obsédé par battre Guardiola.
Ouais.
Il a perdu complètement le truc. Et là maintenant, si tu dis il fait pas un début de saison au Pogba. Manchester fait pas, mais il joue pas bien. Quoi. Hier, Mourinho
oui,
a perdu le truc.
Il a c'est pas que Pogba. Quoi.
Et Pogba, faut qu'il fasse gaffe parce que ça se trouve, ça va être. Il va rentrer dans la catégorie talent gâché.
Ouais,
il a 24 ans, il était exceptionnel. On sait toujours pas à quel poste il doit jouer. Il est gros. Ça,
il faut qu'il se casse. Quoi qu'il arrive, il ira à la Coupe du Monde, a priori.
Ah, ben non, ça c'est bon, mais bon, ça serait cool qu'il devienne le joueur qu'il pourrait être.
Il aime bien la chicane avec ses joueurs, Mourinho. Il aime marcher comme ça.
Il s'est avec Cristiano quand il était à Madrid.
Avec Nadiara au Real, c'était très très beau.
Exact aussi, ouais.
Avant, mes trucs, c'est qu'avant, il gagnait.
Ouais, c'est un peu différent. Bon, merci beaucoup, Greg, pour ce trash talk. On suivra la suite des aventures de Paul Pogba et de José Mourinho à Manchester United. Jayana, ça arrive avec Woman Again featuring Bambi. Ce sera avec Morgan dans moins de 3 minutes. Restez connectés sur Move.
13h30.
Move 13 Actu.
Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour, un servi avec une petite sauce dégueu à la menthe, là, par Guerin. Parce que tu nous emmènes à Londres, en Angleterre, pour un débrief des Brit Awards.
Alors, déjà, ma sauce à la menthe est pas dégueu.
Non, c'est pas très bon.
Et deuxièmement, les Brit Awards, qu'est-ce que c'est?
Ça n'est que des bonnes choses, hein. C'est des cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose.
Mais pas du tout, monsieur. Pas de ça, n'a rien à voir. Les Brit Awards, c'est les victoires de la musique anglaise. C'était hier soir. Et dans le pays des Beatles et des Rolling Stones, eh bien, c'est encore le rap qui a gagné.
Non mais y a plus de rock, y a plus de rocker, faut être honnête.
Mais si, y en a encore, monsieur, calmez-vous. Mais ils ont perdu. Par exemple, Liam Gallagher, ancien leader du légendaire groupe Oasis, ouais. Était nommé en tant que meilleur artiste et tout, et il s'est fait battre par Stormzy. Si tu connais pas Stormzy, c'est ça. Rappeur de Croydon, adepte de la grime, qui fait maintenant des trucs vachement plus hip-hop, un peu différents, protégé de Drake. Croydon, ville de la banlieue sud de Londres. Tapez son nom sur Google, vraiment écoutez Stormzy. Il est vraiment archi chaud. Tellement chaud qu'il a pris deux prix, les deux les plus importants, artiste de l'année aux Brit Awards et aussi meilleur album pour son projet Gang Signs and Prayer. Et je conseille fortement d'écouter cet album. Et il l'a pris au nez et à la barbe d'Ed Sheeran. au nez à la barbe comme on disait en 84.
Oui, ça, on dit plus trop ça. Mais alors Ed Sheeran, je rappelle qu'il était en tête de tous les classements de streaming en 2017 sur toutes les plateformes,
oui,
dans le monde
entier. Oui, hein. Oui, il y a eu un truc, il a eu le prix du succès international qu'on devrait renommer le prix OK vu. Genre, hey, t'as pété le score, super, on a vu. Tiens, prends un bibelot. Après, tu sens qu'il fallait lui donner un truc parce qu'ils ont filé deux prix à un noir. T'allais pas laisser un roux en R comme ça. Tu vois, t'as une autre minorité. Tu vois, un peu de solidarité. Oui, oui, oui. Vanne capillaire de gauche. Ouais. C'est une première mondiale. C'est pour mon public militant très niche de coiffeur. Sinon, victoire pour le R&B aussi parce que la chanson anglaise de l'année, c'est Rag & Bone Man. Voilà, il est un peu rouquin aussi, donc on peut parler d'un palmarès rounois, mi-roux, mi-renois.
Alors, ça fait beaucoup de mecs, tout ça. Tu parles pas des catégories féminines.
Si, si, mais c'est les gosses hip-hop, Nassar. Et Dua Lipa qui a gagné toutes les catégories. C'est pas complètement hip-hop.
Ouais, j'adore.
C'est plus pop. Mais t'as raison. Rendons-lui hommage, vu que vraiment, elle a tout raflé hier. Meilleur artiste, album. Et là, et ça donne ça.
Bien, Dua Lipa, hein.
Et la meuf a quand même tapé le milliard de vues.
Ah ouais,
calme.
Tranquille avec ça.
Milliard.
Voilà, en gros, Dua Lipa, comment vous dire, c'est en gros, c'est Rita Ora en pas raté. Parce que Rita Ora, je rappelle, hein, c'est une sorte de filtre Rihanna foireux de Snapchat qu'ils ont viré.
J'avais oublié l'amour immodéré que tu avais pour Rita Ora.
Mais
merci,
je l'aime
beaucoup,
je l'aime énormément.
Toute l'actu hip-hop en temps réel, c'est évidemment sur move.fr. Merci à toute la team Move très actu. Oui, Greg.
Nouvelle médaille pour la France.
Oh, ah, alors, en quoi cette fois-ci?
En biathlon. Relais féminin, médaille de bronze. Voilà. C'est-à-dire la Biélorussie et la Suède.
Fourcade, il fait aussi les épreuves féminines. Donc, qui a gagné?
Les filles, elles s'appellent Justine Breza et Anaïs Bescon, Marie Dorin aussi.
C'est voilà, cool ça. Donc voilà. Ça nous met combien de médailles?
Non, bah, faut que je bosse un peu le truc. Ça nous fait 15 médailles, je crois, si je dis pas
15 médailles, mais c'est pas mal ça. Comment ça va, Morgane?
Salut Alex, salut tout le monde, il va bien. Il a dormi, il a boycotté les JO et là vous me les remettez dans la tête. Bon, bah c'est cool. Voilà. Et je confirme, c'est la 15e médaille.
Ah, 15e médaille, d'accord. Ouais.
Ça fait
que
plaisir.
Tu te tapes les nuits devant les JO?
Bah là, non, pas cette nuit là, j'ai boycotté. Mais oui, quasiment. Ça fait 10 jours que je dors plus là. Vivement que ça termine.
Vivement que ça se termine. Plus que 3 jours. Bah, il s'est passé quoi le 22 février?
Bah, j'ai pas regardé, j'avais envie de vous blind tester.
Oui,
petit blind test. On va chercher ceux qui vendaient le plus d'albums en France un 22 février. Je vous le donne comme ça. Généralement, en ce moment, c'est les enfoirés. À la période de février, c'est les enfoirés qui vendent le plus d'albums en France. Pourquoi? Le spectacle et tout. Mais on va pas blind tester les enfoirés aujourd'hui.
D'accord.
Alors, du coup, l'album.
C'est un indice, mais qui sert à rien.
C'était une petite news comme ça. Ce n'est pas les enfoirés, c'est l'indice. Je vous la donne comme ça. Du coup, on va démarrer avec l'album Le Chemin en 2004. Qui avait fait
Kyo. Kyo.
Ouais, c'était Kyo. Allez pour toi, Alexandre.
Merci.
Allez pour toi. Maximum de respect.
Eh ben moi j'aimais bien.
Je te hais de tout mon corps.
Il y a ma meuf derrière la radio qui doit être comme une dame.
Moi j'aimais bien. Kyo. Franchement, ça.
Moi aussi.
Il y a des trucs qui m'ont plus dérangé.
Allez,
quand même,
hein. J'avoue, je crois que je la connaissais un peu par cœur.
Ah,
un petit peu. Un petit
on
peu.
Était tous un peu des
mais
canards.
Mais que ça, j'assumerai pas plus. Je crois que j'assumerai pas plus.
Très bien.
Qui a fait l'album Mes repères en 2009?
Mes repères.
Gilbert Bécaud.
Rappeur. Il est rappeur.
Mes repères.
Il peut avoir un nom d'animal.
La Fouine.
La Fouine. Yes. 2009, le 22 février, c'est La Fouine qui vendait le plus d'albums.
Pourquoi on écoute ses fios?
Parce que c'est moi, Amdoula, ça va. Je cite avec ses fios.
Ah, d'accord.
T'as vu comment il est petit? J'étais trop premier degré, moi. J'étais beaucoup trop premier degré. J'ai dû trop dormir.
Ne va pas voir la forme de l'eau parce qu'après tu vas avoir des poissons, toi.
Ouais, ça, ouais. En 2009, c'était quand même avant tous les streamings et tout le patin.
Ouais, ouais, c'était forcément. C'était très, très
et on termine avec 2015 qui avait sorti l'album Vieux Frère Partie 2. Là, faut chercher. On n'entend absolument plus parler de ces mecs-là.
Et c'était quoi? C'était un groupe?
C'était un groupe, ouais.
Français? Rap?
Ouais, rap, un peu rap, trip-hop, voilà, un peu bizarre.
Mano.
Non, ils peuvent avoir aussi un nom d'animal, mais c'est général.
Un nom d'animal général.
The ouais. Fauve, exactement.
Oh,
Fauve.
Du rap.
Ah si,
c'est pas mal. C'est quoi leur punchline absolue? T'entends le blizzard?
Une minute, t'as l'air en détresse.
Non mais ils parlaient comme ça, les mecs. Ils parlaient comme ça, c'est très très chelou.
C'était ça, mais ça c'était sur le Vieux Frère partie 1.
Ah pardon, il y a eu une partie 2. Ah, il peut Fauve, elle est montée, elle est montée.
Un truc de dingue.
Et il s'est cassé la gueule.
Après, c'était la rentrée à la fin qu'il fallait.
Puis après, il a très froid. T'entends le blizzard? Là, ils sont pas bien, là, avec le froid. froid et tout là, ils sont pas bien
c'est
du
ça,
tout.
C'est ça.
Merci Morgane.
Bah, merci à vous. Bonne année à Drew Barrymore aujourd'hui qui fête ses 43 ans.
Cœur avec les
et Drew Barrymore, elle est dans une série qui s'appelle Santa Clarita Diet. Oui, une saison 2 qui va arriver.
Max vous en avait parlé.
Et bah voilà. Et bah franchement, je la conseille.
Ils se mangent entre eux, c'est ça.
Effectivement, c'est assez gaulerie. Franchement, c'est très très lourd. Bonne année à elle.
Et ben on l'embrasse très fort.
Voilà voilà. À demain.
À demain.
Bonne année de la semaine.